ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption.
Est-ce que vous mangez les riches ?
Alors, il y a ici de l'extrême gauche, des mecs des banlieues, des syndiqués, des papis, même des touristes pris dans le truc.
Vous êtes ici chez les salopards, hein ? C'est admis.
On va rester groupés, ça va bien se passer.
La chronique de Maëlle sur Divergence.
Bonjour à toutes et à tous. Vous n'avez pas pu passer à côté. Du 6 au 22 février se déroulent les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Pour les non-adeptes, les Jeux Olympiques d'hiver, c'est un petit peu comme les petits frères complètement demeurés des Jeux Olympiques d'été. Pas de cours sur piste, de natation, de tennis de table, non. Dans les Jeux Olympiques d'hiver, on ne fait que des trucs dangereux. Soit ski, skeleton, combiné nordique, on se défonce la tronche tête à l'envers dans la neige par moins 10 degrés. Et comme à chaque Jeux Olympiques, le public se passionne pour des sports jusqu'alors inconnus au bataillon pour une durée de 3 semaines avant de complètement oublier l'existence de ce sport pour les 4 prochaines années. C'est bien évidemment mon cas. Et mon petit péché mignon à moi, c'est le patinage artistique. J'adore regarder des gens en tutu faire des pirouettes sur la glace, sur un aria de Mozart. J'ai la grâce d'un poulet agonisant et une aversion pour le froid, mais si vous croyez que ça m'empêche de juger les patineurs qui préparent cette épreuve depuis 15 ans, vous vous trompez. Je suis française, mes deux passions dans la vie, c'est me plaindre et juger avec dédain des gens mille fois plus talentueux que moi. Oh, trop la honte, il a fait qu'un double saut Axel, alors que l'autre il a fait un triple. Bref, la délégation française assure en patinage artistique depuis des années. Jean-Christophe Simon, Philippe Candeloro, Marina Nissina, Nathalie Péchala et les stars Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Alors eux, c'est vraiment les Rolls-Royce du patin. La crème de la crème. Quintuple champion du monde, quintuple champion d'Europe, septuple champion de France, champion olympique, personne ne peut les tester. Mais ça, c'était jusqu'à l'année dernière. En décembre 2024, Gabriela Papadakis a annoncé que le patinage professionnel s'était terminé pour elle. Et en effet, au JO de 2026, Guillaume Cizeron danse aux côtés de Laurence Fournier-Baudry. Et à quelques jours du début des JO, son ex-partenaire a publié un livre intitulé « Pour ne pas disparaître », dans lequel elle dénonce la violence et le sexisme systémique du milieu sportif. Objectivation du corps des femmes dès l'enfance, pression supplémentaire, course à être choisie par un partenaire masculin avant l'âge de 10 ans, au risque de ne plus pouvoir s'entraîner, culte de la perfection et de la beauté, et puis deux viols, un climat de harcèlement sexuel permanent et le silence de Guillaume Cizeron.
Dans le patinage, depuis qu'on est jeune, en fait, il y a un traitement très différent entre les petits garçons et les petites filles. Pour faire des duos de danse sur glace, il faut absolument faire un couple mixte. Donc, ça veut dire que les garçons sont généralement dans la position de celui qui choisit, les petites filles sont généralement dans la position de celle qui est choisie. Il y a aussi beaucoup d'injonctions à la féminité, à la beauté, beaucoup de l'hypersexualisation. À 12-13 ans, je portais déjà du rembourrage dans mes costumes pour donner l'air d'avoir des seins. Donc ça commence déjà avant même la puberté. Il y avait cette personne-là qui venait rentrer dans les vestiaires, qui draguait des filles mineures sur la tournée, etc. Et ça, c'était quelque chose que comme personne ne faisait rien et qu'on nous donnait le message qu'il n'y avait rien à faire, nous, on se sentait très impuissants, impuissantes. Dans un dîner avec mon ancien partenaire, où je lui avais fait part du fait que je voulais porter plainte, il m'avait dit que, voilà, il me croyait, mais qu'il ne patinerait plus avec moi, il ne voudrait plus patiner avec moi si j'entamais cette procédure judiciaire.
Une ligue sportive misogyne, une omerta sur les violences dans le sport, du chantage à la carrière.
Mais non, mais non, mais c'est pas possible, incroyable.
La domination masculine dans le milieu du patinage, elle avait déjà été dénoncée par Sarah Abitbol, elle-même victime de viol quand elle avait 15 ans par Gilles Beyer. Les cadres de la Ligue de patinage étaient au courant de ces agissements, de même qu'un ministre des Sports, sans que rien ne soit fait pour protéger les victimes et évincer les agresseurs. Et en plus de l'avoir menacé de ne plus danser avec Gabriela si elle portait plainte pour viol, Guillaume Cizeron aurait exercé une emprise toxique sur sa partenaire. Emprise permise par la hiérarchie sexiste du patinage. Et comme on vit dans un monde super, Guillaume Cizeron continue à patiner tranquillou bilou en décrochant même la médaille d'or aux Jeux Olympiques, tandis que Gabriela Papadakis s'est vue remerciée de son job de commentatrice sportive pour la NBC, normal.
NBC était au courant, ils avaient lu le livre, ils voyaient pas de problème à ce que je puisse commenter les jeux. Ils m'avaient demandé si j'étais capable de faire preuve de neutralité. J'ai dit oui, parce que c'était un travail qui m'importait beaucoup. Et finalement, sous les pressions un peu médiatiques qu'il y a eu après cette mise en demeure, voilà, ils m'ont dit on te soutient, on est derrière toi, mais malheureusement ça compromet ta perception en tout cas de neutralité. Et c'est quelque chose que qui est très dommage. Et en même temps, ça montre aussi que les gens qui prennent la parole se mettent en danger.
Ça commence à m'énerver sévère, ce jeu d'acteur de tout le monde qui fait semblant de découvrir le climat néfaste du sport de haut niveau. C'est pas comme si dans les dernières années, on avait appris qu'Yannick Agnel, champion olympique de natation, avait violé la fille mineure de son entraîneur. Que Larry Nassar, médecin sportif américain, avait agressé sexuellement et violé plus de 100 jeunes gymnastes de la ligue pour laquelle il travaillait. Que Régis de Camaret, entraîneur de tennis, avait violé l'ancienne numéro 1 française Isabelle de Mongeau. Et à chaque fois, on fustige les victimes, on les accuse d'opportunisme et on ruine leur carrière, pendant que les agresseurs sont protégés. Comme lorsque les actrices ont levé l'omerta sur le chantage sexuel des puissants au cinéma en 2017 avec le mouvement MeToo. C'est toujours la même chose, tout le monde savait, personne n'a rien fait et tu seras bien gentil, tu fermes ta gueule. Des affaires comme ça, il y en a tous les jours, et pas que dans le milieu du sport. Dans le cinéma, je l'ai dit, mais aussi dans le monde de la télé, hein, coucou Pierre Ménès, Morandini et compagnie. Ouais, je rappelle les noms, je n'en ai plus rien à foutre. Dans le milieu de la politique aussi, coucou Darmanin, Joël Gariot, Damien Abad, et puis dans la gastronomie, à l'école, au travail, partout. Il ne se passe pas une journée sans qu'on apprenne de nouveaux crimes, sans qu'on entende de nouvelles abominations. Tant qu'on est dans le patinage, je vais prendre l'exemple de Philippe Candeloro. Je vous l'ai cité comme une grande figure du sport dans mon introduction, mais j'ai oublié de préciser que c'est pas le dernier des connards non plus. D'ordinaire, c'est lui qui commente les épreuves de patinage, que ce soit au JO ou aux compétitions nationales. Et cette année, il a été remplacé par un trio 100% féminin, Marie-Christelle Maury, Nathalie Péchala et Ariel Dumont. Et le coco s'est retrouvé vexé dans son égo masculin. Il a déclaré que c'était bien dommage d'avoir remplacé Nelson Montfort et lui-même par trois bonnes femmes qui ne sont pas aussi drôles et bienveillantes qu'eux. Mesdames et messieurs, l'humour et la bienveillance en question.
On est à Turin en 2006, elle c'est Shizuka Arakawa, une patineuse japonaise. Elle vient de décrocher l'or olympique et lui dit...
Je pense qu'elle aura mérité un bon bol de riz ce soir.
Elle c'est Valentina Mercei, une patineuse italienne.
Coup de charme, hein, Valentina, un petit peu comme Monica Bellucci. Peut-être un petit peu moins de poitrine, mais bon.
On est à Sochi en 2014, elle c'est Caitlin Osmond, patineuse canadienne de 18 ans, et il dit...
Ouais, je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir... L'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne.
Elle, c'est Aliona Savchenko, elle est quadruple championne du monde.
En 2006, on avait vérifié une petite allusion d'ailleurs à son joli petit postérieur.
Il a lâché ça au calme pendant 20 ans à la télé.
On ne regarde même plus le haut du corps, on ne regarde que les pieds.
Alors vous me permettrez, Annick, que je puisse lever un petit peu les yeux quand même, en dehors des pieds.
Pour la finesse d'esprit, on repassera. Les hommes manquent de beaucoup de choses, mais certainement pas de culot. Et c'est dans ce monde où les jeunes enfants sont à la proie de pédophiles parfaitement intégrés dans la société qu'on devrait faire des gamins. Si vous avez 29 ans ou plus, vous allez prochainement recevoir un flyer du gouvernement français pour vous rappeler qu'il est urgent de réarmer démographiquement le pays. Et oui, les gens ne baissent plus, ou s'ils baissent, ils se protègent pour ne pas être parents. En 2025, le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et de décès enregistrés sur l'année, est de moins 6000. Donc en gros, il y a eu plus de décès que de naissances. C'est la première fois depuis 1945 qu'on a un solde négatif. Et du coup, ça inquiète les dirigeants, parce que moins de gosses, c'est moins de futurs travailleurs et moins de futurs soldats pour aller crever sur le front en cas de besoin.
Nous sommes nos restes, ils sont à peu près 50 en face, chef.
Vous êtes combien à vous ?
Nous, on est deux.
Ok, campez sur vos positions, on va arriver en renfort.
Ok, on attend ici, chef. Je crois que je vais me chier dessus. Moi, je suis en train, là.
Sauf qu'en fait, non, on manque pas de travailleurs, on ne manque pas de potentiels soldats. Parce qu'en 2025, on a un solde migratoire d'environ 176 000 nouvelles entrées. Et c'est pour ça que la migration, c'est positif pour un État. De la nouvelle main-d'œuvre, des nouvelles rentrées d'argent avec les impôts et le produit du travail, et puis les personnes qui viennent s'installer dans un État compensent les baisses de natalité. À tel point que même les pays les plus racistes, comme l'Italie, ont changé d'avis sur l'immigration en voyant que ça rapportait quand même pas mal d'avantages. Mais en France, on l'a pas encore compris, et à mesure que les racistes se multiplient, l'État nous fait clairement comprendre qu'il est temps de se mettre à la tâche. Ça fait quelque temps déjà que Manu Max nous parle de réarmement démographique, manière polie de nous dire « bah baiser s'il vous plaît ». C'est culotté quand on sait que Manu n'a pas d'enfant. Brigitte elle en a, elle, mais Manu non. Ça explique d'ailleurs pourquoi il a autant dézingué l'école publique depuis qu'il est au pouvoir. Mais il a beau avoir fait l'ENA et être entouré des meilleurs conseillers de McKinsey, il n'a toujours pas compris une chose, on est français. C'est pas en nous forçant à faire des gosses qu'on va se décider à procréer. Si Manu veut vraiment que les Français se la donnent, il faut qu'il annonce que faire un enfant est illégal. Là, ça va fonctionner sur les Gaulois réfractaires.
Gaulois !
Rassemblement.
Après, pour qu'on veuille faire des kids, il faudrait déjà une bonne raison. Parce que dans la France de Macron, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages à amener sur cette terre un petit Timéo ou une petite Timéette. Depuis que j'ai l'âge de faire des enfants, j'ai sur mon téléphone une liste non exhaustive des raisons de ne pas faire d'enfants. Liste que j'agrémente quasi quotidiennement depuis des années. Et comme je suis super sympa, je vous en lis un échantillon. Numéro 1, il y a de moins en moins de maternité parce que Manu a aussi dézingué l'hôpital public. Donc j'ai pas tellement envie de faire 2 heures de route pour mettre bas dans un hall d'urgence blindé ou de payer mon accouchement 1000 balles dans une clinique privée. Numéro 2, on est tous devenus pauvres. On a déjà du mal à joindre les deux bouts tout seul, alors avec un bébé, n'en parlons pas. Un enfant, ça coûte en moyenne 260 000 euros par enfant de 0 à 25 ans. Numéro 3, l'extrême droite est à un poil de cul de prendre le pouvoir, flemme d'élever un enfant sous le 4ème Reich. Numéro 4, on peut perdre ses dents pendant la grossesse, on peut mourir à l'accouchement, finir ouvert en deux et être recousu avec le fameux point du mari si on a la chance de tomber sur un obstétricien. Numéro 4, on peut perdre ses dents pendant la grossesse, on peut mourir à l'accouchement, finir ouvert en deux et être recousu avec le fameux point du mari si on a la chance de tomber sur un obstétricien, je vais pas y arriver. Numéro 4, on peut perdre ses dents pendant la grossesse, on peut mourir à l'accouchement, finir ouvert en deux et être recousu avec le fameux point du mari si on a la chance de tomber sur un obstétricien misogyne. Numéro 5, il y a une chance sur deux pour que mon enfant devienne de droite en grandissant et plutôt mourir que d'enfanter un Bruno Retailleau junior. Numéro 6, j'ai besoin de 8 heures de sommeil pour être capable d'assumer une journée complète et il est hors de question que je sente le vomi 23 heures sur 24. Numéro 7, la charge mentale, j'ai déjà du mal à penser à bien scanner mon contrat d'énergie pour toucher les APL. Alors je me connais, mon gamin risquerait de se retrouver avec un pot de pesto en guise de pique-nique pour sa sortie scolaire. Numéro 8, dans ce pays de merde, les femmes doivent choisir entre carrière et maternité, et perso j'ai choisi. Et enfin numéro 9, j'ai pas envie, ce qui en soit une raison bien suffisante. Alors bien sûr, les enfants, c'est super. Je ne suis pas dans la team, pas d'enfants dans l'espace public, parce qu'on a tous été enfants, et parce que c'est déjà pas évident pour les parents. Un enfant, c'est merveilleux, c'est un bout de soi qu'on élève et qu'on aime plus que sa propre personne. La seule raison qui pourrait potentiellement me décider à faire un enfant, c'est si les statistiques montrent qu'il n'y a que les gens de droite qui se reproduisent. Auquel cas, là, exceptionnellement, je serais ok pour participer à l'effort national et repeupler la France de mini-gauchistes aberrés qui seront tout à l'avant du cortège de la manif dès leur naissance pour scander « Siamo tutti antifascisti ».
Ça fait tac 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 tac. Tu vois ?
Voilà, faudrait songer à arrêter de considérer les utérus des femmes comme des usines et repenser le modèle économique et social pour que la baisse de la natalité ne soit pas un problème. Et puis si vraiment le gouvernement veut nous donner envie de faire des enfants, il faut des mesures adaptées. C'est pas en fermant des classes d'école et des lits d'hôpitaux, en réintroduisant des pesticides néfastes pour le développement de l'enfant, ou en fermant les yeux sur les affaires de pédophilie extrêmement nombreuses que ça va donner à quiconque l'envie d'amener un enfant dans ce monde. Si Manu veut qu'on baise, je lui propose déjà de dégager le plancher. Parce qu'un prétentieux amoumoute qui donne des leçons de morale à tout le monde en massacrant le système social, ça fonctionne bof sur la libido des gens. Soyez curieux, restez révoltés et sortez couverts. Bisous.
Les juges et les...